1 Samuel et la période des juges, hein, qui est une histoire assez mouvementée pour le peuple d'Israël. Et, mais malgré ce mouvement, à cette période, dans 1 Samuel 7, on voit la fidélité de Dieu manifestée par la repentance du peuple et de sa délivrance. Le passage sur lequel va porter notre prédication insiste sur l'importance de garder des traces, une borne qui atteste du secours de Dieu, comme ici. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors c'est comme un rappel précieux pour l'avenir. Donc avant de continuer, nous allons tous ensemble voir une vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Sur des témoignages de chrétiens de par le monde, sur ce qu'est, sur aussi un petit peu l'histoire de Porte Ouverte. Comme ça, on va être tout de suite dans le bain.
L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne.
Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille.
La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar.
Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi.
Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves.
Beaucoup m'ont dit, tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir. Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur.
Je demandais sans cesse à Dieu, pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves? Dieu m'a répondu, je ne t'ai jamais abandonné. Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi.
Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur.
Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité.
Alors, l'histoire du peuple d'Israël et le témoignage de ces chrétiens vivants sous la persécution peuvent-ils nous aider à décoder des choses ? Que montrent les histoires bibliques de la manière dont Dieu prend soin de son peuple ? Et serait-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se cachent même au cœur de nos épreuves les plus difficiles ? Alors on va lire ensemble certains versets de 1 Samuel 7 au verset 1 à 17, mais on ne va pas le lire en entier, on va lire que juste quelques passages. Alors je rappelle la période des juges, c'est une période d'instabilité où le peuple d'Israël, c'est un cycle qui ne s'arrête pas, c'est toujours la même chose. Hein. Le peuple pêche, le peuple est sous la servitude, le peuple supplie et Dieu les délivre. On a toujours ce cycle un petit peu dans le livre des juges. Alors on va lire en verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, et dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. » Samuel cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, et Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel au nom de l'Éternel. Bon, je vais laisser Jackie intervenir.
Dans ce passage, dans Samuel, on voit justement cette relation entre le peuple d'Israël et avec Dieu, cette relation est en dents de scie. Donc pour replacer le contexte, on revoit que cette histoire se déroule juste après la conquête de Canaan, et cette relation entre Dieu et son peuple est vraiment en dents de scie, et ce même cycle va se répéter à maintes et maintes reprises. Le peuple d'Israël est influencé, donc Canaan là où il est, par toutes ces influences extérieures. Il y a les Philistins, il y a des échanges du commerce entre le peuple d'Israël et les Philistins, et ça va influencer aussi leur relation avec Dieu. Parce que d'un côté, tous ses voisins périphériques adoptent des idoles, et peu à peu, eh bien justement, le peuple de Dieu va subir cette influence, que ce soit morale, spirituelle, également physique. Parce qu'ils vont être blâmés, parce que c'est vraiment le peuple de Dieu. Et cet éloignement entre Dieu et son peuple va empêcher la bénédiction et la protection de Dieu. Les ennemis d'Israël peuvent alors en profiter, ils prennent le dessus dès lors que le peuple s'éloigne de Dieu. Et on voit que, justement, pour empêcher ça, pour que le peuple de Dieu revienne dans de meilleures conditions, eh bien, Dieu va envoyer des juges. Il y aura d'abord Élie, puis Samuel. Et là, c'est Samuel qui nous commente une petite partie de ce qui s'est passé. Pour résumer, lorsque Israël s'éloigne de Dieu, il subit des épreuves, des défaites, il vit dans l'oppression et la confusion spirituelle. Mais quand Israël, le peuple d'Israël, revient vers Dieu, eh bien là, on voit qu'il subit, il ne subit pas, au contraire. Il reçoit des bénédictions de Dieu. Et ce cycle recommence à maintes et maintes reprises. Donc là, c'est vraiment le contexte. Ensuite, on voit un petit peu pourquoi justement le peuple agissait comme ça, et les conséquences de son action. Ça va être le tome 2. Alors, en fin de compte, il avait une très mauvaise compréhension de la signification de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Il y avait une arche. Au-dessus de l'arche, il y avait la nuée qui représentait la présence de Dieu. Et tant qu'il y avait cette arche et la présence de Dieu au-dessus, sous forme de nuée, eh bien, Israël se sentait protégé. Mais, dans la compréhension de ce peuple, Dieu résidait dans l'arche et au-dessus de l'arche. Donc Dieu était limité, il était enfermé dans une petite boîte. Voilà, ça c'était la compréhension du peuple d'Israël. Et jusqu'au jour où cette arche s'est retrouvée au milieu du peuple, chez les Philistins, eh bien Dieu s'est éloigné de son peuple. Puisque dans l'esprit du peuple, Dieu était dans l'arche. Et voilà pourquoi il y avait des malheurs, des persécutions dans ce peuple. Et lorsqu'il y eut cette prise de conscience, eh bien, le peuple s'est rapproché de Dieu. Donc, pour résumer simplement, le peuple d'Israël, qui se réjouissait de la présence de Dieu, mais vraiment l'honorait très très mal. Ils étaient heureux lorsque l'arche était au milieu d'eux, mais sinon ils ne savaient pas comment s'exprimer, comment l'honorer. Il était donc puni, par exemple, pour son attitude qui tenait plus de la superstition, parce qu'il pensait, il croyait uniquement dans l'arche. Donc ça, c'est mauvais. Et la présence de l'arche ne constitue pas une assurance de vie. En fin de compte, notre assurance est en Christ. C'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et simplement, dans le chapitre précédent, nous lisons que l'arche de l'Alliance, rendue par des Philistins, est restée 20 ans à Kirjat-Jérim, dans la maison d'Abinabad. Le peuple avait ainsi mis à l'écart leur culte à Dieu, puisqu'ils pensaient que Dieu résidait dans et au-dessus de l'arche. Maintenant que l'arche était au milieu de son peuple, il y a eu un retour, une restitution, eh bien, ils en avaient peur, car ils ne savaient pas comment gérer la présence de Dieu au milieu d'eux. Maintenant, nous-mêmes, face à cet épisode, on peut se questionner également. Est-ce que cette situation illustre une réalité spirituelle présente de nos jours? Avons-nous peur d'aller plus loin avec Dieu, de ce qu'il pourrait nous demander de faire? Préférons-nous vivre en marge de sa présence dans nos vies, nous appuyant sur nos fausses sécurités, l'enfermer par exemple dans l'arche? Est-ce que Dieu est enfermé dans une petite boîte ou est-ce qu'on le laisse agir pleinement dans notre vie? Laissons-nous insidieusement notre vie chrétienne se résumer à des règles que l'on suit, alors que Jésus nous appelle à une relation vivante de tous les jours avec lui. Dieu n'est pas enfermé, il est 24 heures avec nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est à nos côtés, il est en nous, il est avec nous. Enfin, peut-être professons-nous le Seigneur de notre bouche, mais nous ne savons pas comment lui plaire par une foi obéissante. Donc là, dans ces trois thèmes, dans ces trois petites phrases, je résume pleinement ce que vivait le peuple d'Israël à l'époque. Dieu était contenu dans une petite boîte. Ensuite, le fait qu'ils aient connu l'oppression, eh bien, l'arche a été négligée, et le peuple d'Israël s'est peu à peu éloigné de Dieu. Encore une fois, en conséquence de son péché et de son rejet de Dieu, l'oppression des ennemis, donc là ce sont les Philistins, vont s'appesantir de plus en plus sur le peuple. Et Samuel a appelé la nation d'Israël à la repentance. La repentance, c'est une action qui est intérieure, qui vient du cœur. C'est sincère, mais c'est aussi la repentance quelque chose qui se manifeste extérieurement en nous éloignant des idoles. Du fait de l'épreuve, le peuple revient à Dieu dans une repentance sincère. L'oppression, comme a pu le subir Omar dans ce que vous avez vu au départ, c'est la conséquence de l'infidélité du peuple de Dieu. Mais également, c'est aussi le moyen utilisé par Dieu pour faire revenir le peuple à lui. Il y a cette double interaction. Dieu change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. De même, de nombreuses histoires de chrétiens persécutés témoignent de cette réalité. Sans que ces chrétiens n'aient nécessairement péché ou se soient éloignés de Dieu, lorsque les choses vont mal, ils se sont naturellement réfugiés et rapprochés de Dieu. Et cette nouvelle intimité avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve, de sorte que les difficultés et les persécutions leur sont finalement profitables. C'est parce qu'il y a des jalons qui ont émaillé leur vie que l'on peut se réfugier justement sur les bénédictions du passé et aller encore plus loin. Et de nos jours, nous est-on toujours à 100% en présence de Dieu dans nos pays libres ? On peut se poser la question également. Et pour illustrer tout ce que je viens de dire, on va écouter simplement le témoignage de personnes qui ont subi l'oppression. D'abord, on va parler de Kamala. Et c'est Alice qui va vous présenter Kamala et ce qu'elle vit, ce qu'elle subit.
Alors Kamala est népalaise, hindouiste. Ses parents se sont convertis quand le père de Kamala était malade, et parce que c'est des chrétiens qui l'ont guérie. Et en fait, elle est née, elle a vécu dans ce contexte un peu chrétien, mais elle a décidé d'épouser un homme hindouiste, et donc elle a à la fois épousé ses pratiques, mais elle s'est vite rendue compte que cet homme était volage, alcoolique, violent. Et sa mère lui dit, l'appelle et lui dit, j'ai rêvé que le pasteur te disait de revenir vers nous. Et elle l'a pas fait tout de suite. Donc quand la violence était à son comble, elle s'est dit, je vais retourner chez mes parents. Et elle dit, j'ai réalisé que le chaos de ma vie était une conséquence de ma désobéissance et j'ai décidé de me repentir et de revenir à la foi. J'ai commencé à crier à l'église secrètement et j'ai cessé toute pratique avec les rituels hindous. Quand elle est revenue chez ses parents, elle était bien accueillie forcément, mais son frère la persécutait aussi parce qu'elle était chrétienne et pas lui. Donc elle a de nouveau dû s'enfuir. Et là, elle a été reçue par le pasteur de cette petite église qui l'a accueillie, qui l'ont aidée, qui lui ont trouvé du travail. Et là, elle réalise que si elle n'avait pas accepté Jésus, je me serais perdue et je ne sais pas comment j'aurais fini. Je n'aurais pas aimé ma fille comme je l'ai aimée et je serais passée à côté de bien de bénédictions. Maintenant, grâce à Jésus, je suis heureuse et j'ai la joie de vivre. Et elle termine en disant, et la prière, la vie sans prière n'a pas de sens. Les chrétiens qui ont une vie consacrée à la prière connaissent la joie de savoir que nous ne sommes pas abandonnés, quoi que nous puissions vivre.
Donc un deuxième témoignage, on va revenir sur Omar. Omar et sa femme Madalena servent une toute petite église dans le nord du Mozambique. Ils ont été appelés par Dieu et c'était une zone complètement vierge, il n'y avait pas d'église. Ils ont constitué leur première église et peu à peu, les familles se sont converties, l'église s'est étoffée, de plus en plus de membres, et c'est à partir de ce moment que la persécution va intervenir. Il faut savoir que le Mozambique se situe à l'est de l'Afrique, au sud de la Somalie et de l'Éthiopie, et dans une zone qui s'appelle la zone subsaharienne, aux emprises avec les intégrismes. Et justement, c'est à partir de là que toutes les familles vont être persécutées et Omar et sa femme, en tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, seront encore beaucoup plus persécutés jusqu'au point où ils vont recevoir des brimades, on va dire des calomnies sur eux. Ils vont être rejetés par la communauté musulmane et petit à petit, l'oppression sera beaucoup plus forte. Jusqu'au jour où il y a un groupe d'intégristes qui interviennent et qui vont le battre, qui vont le flageller, qui vont le lier avec des chaînes et qui vont vouloir le mettre à mort. Et comme Omar le disait tout à l'heure, une personne va s'apprêter à le tuer, à le frapper avec un bâton, et c'est là que la police militaire va intervenir. Suite à un appel de Omar qui disait simplement, il a eu cette pensée de Dieu, je reprends, oui, la promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et cette promesse va lui venir en mémoire, et par la foi, il va s'y accrocher comme à une ancre. Il se sent alors assuré de la présence de Jésus avec lui. Il relève alors la tête, il aperçoit les bottes militaires. Et c'est vraiment la délivrance qui intervient miraculeusement. Et tous les assaillants, bien sûr, ont pris la fuite. Ça, c'est vraiment un témoignage percutant d'Omar, qui nous dit que tant qu'il avait cette espérance que Dieu était avec lui, eh bien, il serait sauvé, il pourrait aller plus loin. Bien sûr, il est humain, il a vu sa fin venir, mais Dieu est intervenu alors que lui-même pensait mourir. Maintenant, on va passer sur ce retour sincère, et c'est Alice qui va vous en parler.
La nécessité d'un retour sincère à Dieu, c'est la disposition de notre cœur, puisque Samuel nous le dit au verset 3. Si vous revenez si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, Dieu agira. Hein. Alors c'est vrai que Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Hein. Je me souviens, David Guéblet, et dans la prière de Lydiane, elle a dit un peu plus ou moins, il nous parlait de Yanis Gauthier. Yanis Gauthier, c'est un braqueur patenté hein, qui a fait de la prison et qui s'est converti dans sa prison et qui a dit et reconnu en disant « Notre Dieu ne juge pas, notre Dieu restaure ». Et c'est exactement ça. En fait, dans notre démarche avec Dieu, ce qui est important, c'est de voir que Dieu ne nous reproche rien, comme le prophète Samuel avec son peuple, hein, il lui reproche rien, mais notre restauration est marquée par notre passé, forcément, hein, et elle est progressive et positive. Et notre repentance vient du cœur, hein, notre repentance vient du cœur. Le peuple d'Israël, quand il était conscient de cette situation, est un exemple pour nous, parce qu'il a quand même des attitudes clair, hein. Il rejette les idoles, il reconnaît et confesse son péché et il s'engage à servir l'Éternel dans le jeûne. Et il se tourne pleinement vers Dieu en toute sincérité. Comme le disait Kamala, hein, la prière est le fruit de notre intimité avec Dieu et elle doit être chevillée en nous tous les jours. Hein. Et enfin, Dieu délivre et restaure. Hein. Les Philistins ont été battus et pour commémorer cette victoire, le peuple gardera le souvenir de cette pierre, hein, Ebenezer. Ebenezer qui veut dire pierre du souvenir, c'est-à-dire la proclamation du plein rétablissement d'Israël sur son territoire, mais surtout son alliance avec Dieu. Alors c'est aussi un parallèle avec nos vies, hein. On a tous eu des passés difficiles, éprouvés, hein, mais Dieu nous accorde une vie de liberté, de paix et de joie surnaturelle, hein, quand on écoute ces petits témoignages, lorsqu'on revient à lui avec une pleine sincérité et une profonde repentance. Troisième partie.
N'est pas tout à fait synchro, mais c'est pas grave. Voilà. Troisième partie. Alors, on va parler de cette pierre et on va faire un focus sur cette pierre, ce qu'elle représente. Cette pierre posée, donc c'est une pierre commémorative qui a été posée par Samuel. C'est un signe de reconnaissance à Dieu, ainsi qu'un rappel pour les générations futures. Elle constitue une pierre de référence, un signe visible, un souvenir permanent pour le peuple du secours et de la fidélité de Dieu à leur égard. Vous avez vu cette borne? Cette borne, il y avait un chiffre 70. Nous, sur toutes les routes, il y a des bornes. Si on y prête attention, cette borne nous indique une indication. C'est un repère, là où on est, d'où on vient et où on va aller. Donc c'est bien de s'y référer à cette pierre. Et donc, au niveau biblique, ça reflète bien ce secours et la fidélité de Dieu à leur égard. Ézer, en hébreu, ça a le sens d'une aide vitale, nécessaire, forte et salvatrice. Quelque chose qui sauve cette pierre. C'est vraiment un repère. La parole de Samuel, lors de l'inauguration de cette pierre souvenir, montre que son regard s'étend à toute la période des juges. Il est dit dans Samuel 1:7-12, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Quoique le peuple ait subi, l'Éternel était avec eux. » C'est du passé. Donc, un retour en arrière, un focus. Et Eben-Ézer signifie un lieu d'assistance divine, symbolisant la force et la fermeté. C'est une pierre de soutien, c'est de l'aide, c'est un roc. Malgré les chutes périodiques d'Israël, Dieu a toujours été fidèle dans le sens qu'il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et le sauver. Il ne manque jamais de répondre à son peuple lorsque le regard de son peuple se tourne vers lui, mais se tourner vers lui avec une repentance sincère. Nous-mêmes, ne sommes-nous pas aussi appelés à faire de temps en temps un point de marche? Regardez où nous en sommes. Dieu nous a bénis jusqu'à maintenant. C'est des choses qui sont ancrées en nous et ça nous permet d'aller plus loin et d'affronter ces difficultés que l'on peut subir ou à venir. Donc, c'est reconnaître aussi la présence bénissante du Seigneur à nos côtés, même en temps de difficultés. Ne devons-nous pas, nous aussi, connaître la grâce de Dieu, sa puissance et sa souveraineté, maintes fois démontrée dans notre histoire passée. Cette démarche de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire, nous plaçant dans une juste attitude vis-à-vis de celui qui, comme un bon père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus et même corrigés de nos erreurs avec amour pour nous ramener sans cesse à lui. Ça, c'est Hébreux 12 qui nous en parle. Pour gagner la course de la vie, il faut garder une attention inébranlable portée sur Jésus et courir sans relâche vers le but que Dieu nous a donné jusqu'à la ligne d'arrivée. 2 Timothée 2:13 nous dit « Si nous sommes infidèles, au contraire Dieu, lui, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » C'est une foi qui gagne également en maturité. Lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche et jusqu'à ce jour, et que nous pouvons dire avec Samuel « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus », nous fortifions notre foi, ce fait du bien, et nous la faisons gagner en maturité. Nous devenons ainsi beaucoup plus forts pour affronter les difficultés à venir, parce qu'il y a des choses qui sont ancrées en nous, Dieu a été présent, on nous a bénis, et donc ces petites choses rejaillissent dans les difficultés, ça nous permet d'aller de l'avant. On se souvient toujours de la miséricorde et de la patience de Dieu. Et ce jalon, cette bande que l'on a vue tout à l'heure, c'est des petites choses qui sont visuelles, palpables, et qui nous permettent toujours d'aller de l'avant. Parce que on était bénis, on s'en souvient, il y a des paroles qui sont ancrées en nous. Et justement, je vais vous donner la suite du témoignage d'Omar. Donc, Omar ayant été vraiment persécuté jusqu'à la mort, il était exfiltré. Il a été envoyé dans des lieux qui sont beaucoup plus calmes, reposants. Mais Omar a toujours eu cette intime conviction que sa place était au milieu de son peuple. Et Dieu l'a appelé, et lui s'est senti appelé à retourner d'où il venait et à continuer à servir sa communauté. Et c'est ce qu'il a fait, malgré les menaces. Et aujourd'hui, il sert toujours au nord du Mozambique. Et c'est vraiment une chose merveilleuse, parce que même s'il y a tout autour de lui de la violence, lui sent que Dieu est présent et l'encourage à aller de l'avant. Enfin, l'oppression ramène le peuple à Dieu. Je ne vais pas faire un retour en arrière. Aujourd'hui encore, il convient de partager l'Évangile et de former d'autres chrétiens à le faire et de soutenir les frères et sœurs qui sont persécutés. Donc là, c'est ce que fait Omar. Il continue à servir pour Dieu. Même si sa vie est menacée, il continue à porter la parole de Dieu. Parce qu'il y a cette parole et cette promesse de Dieu qu'il sera avec lui tous les jours de sa vie. C'est vraiment ancré en lui, c'est enraciné en lui qu'il veut continuer à servir. Et vraiment, il veut voir son peuple béni de Dieu. On va passer à la fin, à la conclusion. C'est vraiment très succinct, mais c'est très parlant.
En conclusion, c'est vrai que nous souvenir de tout ce que Dieu a fait dans nos vies et de sa fidélité constante. Hein, et il marche toujours à notre côté. Même dans nos épreuves, il nous ramène toujours à lui quand on décide de tout notre cœur, justement, de prendre sa main. Hein. Nous rappeler aussi des différentes délivrances à porter et effacer aussi toutes nos mauvaises actions par son pardon et sa bienveillance constamment renouvelée. Et nous appuyer aussi sur l'expérience passée, sur sa fidélité et apprenons à revenir vers lui avec sincérité, avec humilité et repentance, de sorte à grandir avec lui et avoir une intimité beaucoup plus, comment dire, une intimité beaucoup plus rapprochée avec lui. Alors, soyons attentifs à la voix du Seigneur par son Saint-Esprit et nous rappeler que, quoi qu'on ait vécu, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il sera notre secours à tous et encore dans l'avenir. Amen. Alors maintenant,
je reprends le fil également. On va passer à la prière. On va prier vraiment pour cette persécution et je vais vous mettre. Il y aura deux photos, des sujets de prière. Donc cette première photo, donc c'est simplement des rappels pour nous aider dans la prière, axer nos prières vers ceux qui subissent la persécution. Donc prier pour l'Église en Afrique subsaharienne, prier pour la consolation des familles des victimes, également prier pour les chrétiens déplacés et prier pour la restauration des sœurs, parce que ce sont toujours ces premières personnes qui subissent le martyre et la persécution. Donc là, ce sont des thèmes de prière. Et ensuite, sur notre diapo, il y a quatre sujets vraiment très particuliers. Vous voyez que ces quatre sujets de prière touchent les quatre coins du monde. Donc pour Omar, donc du Mozambique, prier pour sa protection, prier pour les convertis, et également pour les autorités du Mozambique. Ensuite, pour Kamala, avec cette région sud-asiatique, le Népal, on peut penser aussi à l'Inde, donc prier pour la conversion de sa famille, pour sa fille, prier pour toutes celles et ceux qui, en raison de leur foi en Christ, sont rejetés. Également, on peut prier pour Sarah, c'est l'Égypte, prier pour qu'elle surmonte le traumatisme parce qu'elle est attaquée, prier pour ses agresseurs et prier pour sa protection. Enfin, donc à notre cas, là, c'est l'Amérique du Sud, pour la Colombie, prions pour Fernando, prier pour la protection de Fernando, prier également pour ceux qui le persécutent et prier pour qu'il y ait un réveil dans cette région. Alors, Colombie, vous savez, c'est un pays qui est tenu par des caïds, par la, on va dire, la cocaïne, etc. Donc, lui, vraiment, est dans un milieu qui est très malsain et pour Fernando. Voilà, donc je vous laisse après le choix de prier par petit groupe, ça va être 10 minutes, un quart d'heure, hein, et puis, ou individuellement, vous le faites comme vous le sentez, mais vraiment avoir à cœur, hein, voilà, il y en a pour tout le monde, des sujets, je vous laisse le soin de prier, de vous mettre par petits groupes, comme vous le souhaitez.
Voilà, là on va avoir un temps de prière chacun. Il y a ces quatre sujets, ces quatre personnes, mais on sait qu'il y a d'autres pays qui sont persécutés violemment. Donc vous vous sentez libre de prier aussi. Le Nigeria est un des pays les plus persécuteurs de chrétiens, le Soudan aussi actuellement. Donc voilà, donc sentez-vous libre, soit vous restez debout, assis, à côté, vous vous réunissez par groupe de deux, trois, comme vous voulez. On a justement ce temps particulier de prière pour l'Église persécutée.